toutes et tous, nous sommes à Brest même, place Guérin, en compagnie de Maxime Bonjour. Et Julie.
Bonjour.
Salut à vous deux. Et donc Maxime et Julie qui nous viennent de Douarnenez et qui sont membres tous les deux du local, donc un collectif de Douarnenez qui gère un lieu collectif, qui est un lieu collectif, et donc que nous avons invité pour aborder à la fois l'expérience de ce lieu, pour aborder aussi la question de la gentrification et aussi la question particulière de la mise en tourisme. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la question du local. Qu'est-ce donc que ce local, ce lieu à Douarnenez ? Julie.
Le local, c'est un espace qui a été ouvert, qui est loué depuis 2 ans maintenant, qui a été ouvert au moment des élections présidentielles qui ont emmené Macron au pouvoir. C'est un espace dans lequel, à l'année, il y a des ateliers toute la semaine. Donc, ça peut aller du cours de grec aux ateliers de Cannabis Can. Voilà. C'est des activités qui sont gratuites. Mm-hmm. Et vu qu'il y a un loyer, on organise aussi quand même pas mal de fêtes pour pouvoir payer le loyer collectivement.
Et donc c'est un lieu et un collectif qui repose uniquement sur des bénévoles, des militants.
Ouais, c'est
aucun
ça.
Aucun salarié.
Non, il n'y a aucun salarié, c'est totalement autofinancé. Il y a aussi à l'intérieur du local le studio de radio Vogel des Mouettes, une web radio douarneniste.
Qu'on salue au passage.
Oui, bah pour revenir un petit peu sur l'histoire du lieu, au départ, le lieu est né autour d'un groupe qui s'était formé au moment de l'instauration de l'état d'urgence, autour d'un focus, de tables de presse et de soirées, discussions, projections dans différents lieux de la ville, beaucoup dans la librairie à Livret et dans des espaces collectifs à droite à gauche. Et au bout de quelques mois, assez vite, on s'est rendu compte du manque d'espace disponible, facilement mobilisable et accessible pour faire tous les événements dont on avait envie. Et on a commencé à chercher un local à louer. Voilà, donc ça a pris quelques mois. Ensuite, on a ouvert et ce lieu, comme disait Julie, nous permet à la fois de faire des ateliers, d'un lieu ouvert, un lieu de quartier ouvert en plein centre-ville, et aussi un lieu d'organisation, un lieu d'organisation politique, militante, et un lieu de soutien pour les luttes ici ou ailleurs. Quoi.
Et donc, Julie disait que le lieu fonctionne en fait selon le collectif, selon les envies de chacun. Donc chacun apporte ses... ces propositions au collectif, donc ces propositions d'atelier, je suppose. Donc, et le lieu se construit, s'enrichit au fur et à mesure des départs aussi, se modifie selon les départs, mais s'enrichit selon les arrivées et les envies de tous les membres, de toutes et toutes les membres.
En fait, il y a une réunion de programmation une fois par mois, mm-hmm. pour faire la programmation du mois suivant, qui est ouverte à toutes et tous. Voilà, donc usage, enfin des personnes qui utilisent seulement le lieu ou des personnes de l'organisation du local, quoi.
C'est totalement ouvert en fait. La volonté,
c'est
de faire quelque chose d'ouvert auquel chacun peut se rattacher et créer quelque chose.
C'est tout à fait ouvert. Après, voilà, on a quand même un peu une ligne politique commune, quoi. Du coup, il y a des choses qu'on n'accepterait pas.
Oui, quand on a ouvert le lieu, on l'a appelé espace autogéré. Je pense que ça représentait à la fois une filiation un petit peu politique, historique, de mouvement d'émancipation, et puis une volonté de pouvoir s'organiser sur des bases horizontales et que tout le monde puisse participer à la construction du lieu. Dans les faits, c'est forcément un peu plus compliqué que ça, je pense, comme toutes les orgas dites autogérées, elles reposent quand même essentiellement sur un petit noyau entre 4 et 6, 8 personnes, suivant les moments, qui est un petit peu fluctuant, avec une base vraiment fixe depuis le début, et puis des gens qui viennent, qui repartent pour différentes raisons. Voilà, on essaye au mieux d'ouvrir, en tout cas, la programmation, le lieu, et aussi d'ouvrir... la possibilité de s'investir dans une organisation et dans l'attention au devenir du lieu sur des choses qui sont beaucoup moins amusante qu'organiser des événements qui sont la gestion, la compta, la com, et puis gérer les conflits, les problématiques en interne et avec l'extérieur. Voilà, donc on essaye de pratiquer ça. Dans les faits, c'est jamais si extraordinaire que ça, mais on essaye de pousser dans ce sens-là, en tout cas.
Justement, ouais, l'une des raisons pour lesquelles on souhaitait aussi vous inviter, c'est cette expérience d'un lieu collectif autogéré, mais un lieu, si je peux me permettre, vous le rappeliez, donc légal en fait, c'est à souligner aussi. Donc à Brest, on a quelques mètres devant nous, donc une salle qui s'appelle la salle de un lieu, la salle l'avenir. Donc il y a bien évidemment beaucoup d'autres lieux donc, à Brest, à Douarnenez ou ailleurs qui sont des squats. Donc le local, c'est un choix de lieu légal. Qu'est-ce qui peut-être vous a poussé vers ce choix? Est-ce qu'il y a une raison particulière, une volonté de stabilité peut-être, de construction à long terme?
En fait, quand on a, avant d'ouvrir ce lieu, on est, comme disait Maxime, on était plusieurs un petit peu à se poser cette question-là. Ça a été envisagé d'ouvrir en squat, et en fait, on s'est compté. Et finalement, pour des raisons, parce qu'en fait, tout le monde a une vie aussi à côté. On se sentait pas dans la capacité de tenir un squat sur le long terme. Et puis, pour une question aussi de pérennité du projet, quoi.
Donc, on parlait tout à l'heure de l'emplacement du local, donc rue Sébastien Véli à Douarnenez, et donc en plein centre-ville. Et donc, en préparant l'émission, on discutait des transformations de Douarnenez actuellement. Donc des transformations urbanistiques de Douarnenez et donc une gentrification de la ville. Donc, tout simplement, la question, c'est sur quel plan se situe le local sur ce point?
Au local, ce qui est clair, c'est que depuis qu'on est installé, on essaye d'ouvrir et de proposer des moments de discussion, de réflexion autour de ces questions de transformation urbaine. Le fait qu'on soit en plein centre-ville, qui est l'endroit entre les Halles et le Rosmeur, qui est l'endroit qui est le plus touché par les transformations urbaines dues à la mise en tourisme, ça nous amène quand même à avoir une attention particulière un petit peu à ce que ce lieu puisse continuer à exister, même si notre rapport à la gentrification, il est quand même relativement complexe, parce que de toute façon, on n'a pas la prétention d'en être complètement extérieur, même si on essaye de produire de l'opposition à ça. Participer à une certaine forme de dynamisme associatif, même militant ou quoi, ça peut aussi provoquer des transformations de nouvelles populations qui arrivent, et quelque part aussi hâter ce phénomène de gentrification. Mais c'est pas forcément incohérent, c'est juste reconnaître que c'est un phénomène qui est fait à la fois de choix individuels et conscients, et à la fois des phénomènes plus extérieurs, plus abstraits, impersonnels, de forces économiques, politiques, qui interagissent avec des choix individuels. Et nous, d'un point de vue politique, on se positionne complètement en opposition par rapport à ça, et surtout à ses conséquences, tout en sachant que le fait de louer en centre-ville, le fait d'habiter là, en étant pour beaucoup dans le local des installés récemment, il y a 2, 3, 4, 5 ans, on peut être aussi vu ou acteur gentrifieur, quoi.
Et donc justement, à Douarnenez, on a des exemples, donc une politique aussi de gentrification. Est-ce que vous pourriez la décrire? Est-ce qu'il y a une spécificité à Douarnenez?
La spécificité, c'est que c'est une gentrification qui se base sur la mise en tourisme, donc c'est une gentrification touristique. Elle est du coup très sectorisée autour en gros, le littoral, quoi. Il y a l'accès au littoral qui est de plus en plus tendu, et le littoral qui remonte à tout ce qui est très facilement accessible à pied au port du Rosmeur. donc pile poil là où on est, là où on vit et là où on agit. Il y a eu depuis un an ou deux une volonté très forte de transformation urbaine du port du Rosmer. C'est quelque chose qui a été largement critiqué par les habitants et les habitantes de la ville. Un désir de transformation pour transformer les usages, des multiples usages populaires et antérieurs du Rosmer, que ce soit un accès à la mer populaire avec des bateaux et des places au port pas cher, de la pêche qui est... Comment ? De la pêche, la baignade, enfin la pêche de loisirs, la baignade. Et sur tous ces axes-là, la mairie a décidé de commencer à mettre en place des restructurations urbaines qui ont au début complètement évacué le mobilier urbain du Rosmer, donc une espèce de volonté d'en faire une promenade commerciale, ou en tout cas une volonté, en tout cas dans les faits c'est ce qui s'était produit, de construire une promenade commerciale plus qu'un lieu de flânerie ou un lieu de vie, quoi. Et de mettre à l'extérieur les pratiques qui ne représentent pas l'imaginaire du petit port du Sud Finistère, et en particulier la pêche de loisirs sur ce qui est appelé là-bas le mur de la honte, qui est une digue qui ferme le port du Rosmer, et qui depuis très très longtemps est un des lieux de pêche extrêmement fréquentés, où il y a des fois plus de centaines de personnes qui pêchent l'été au même endroit, le maquereau. Et qui est très fréquenté par des populations comoriennes en particulier. Et cet été, on a pu assister quand même à une espèce de propagande raciste de la presse quotidienne régionale et de la mairie qui se sont offusqués de toutes ces populations qui vidaient l'océan de ces maquereaux en remplissant des caisses entières, ce qui est quand même un petit peu... ridicule quand on connaît le travail de la pêche industrielle.
Industrielle à Dordonnay, ouais.
Voilà.
Donc on a un renforcement de la spécialisation de l'espace, en fait. Et donc une transformation d'un espace mixte en une zone touristique, commerciale, avec une volonté de transformer un espace de vie en espace de circulation.
Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on a... Enfin, il y a une tentative de faire ça. Après, comme dans tous les espaces gentrifiés, il y a des formes de résistance. Et ces résistances, elles peuvent à la fois s'établir sur des choses un petit peu classiques qui sont plus ce que nous, on pourrait représenter, c'est-à-dire une organisation militante un peu classique d'opposition qui ont... globalement, il faut être un peu conscient que les luttes contre la gentrification dans nos modes d'organisation, elles ont quand même... rarement abouti à des choses formidables. Malheureusement, pour l'instant, il y a peu d'exemples de villes qui ont réussi à vraiment à lutter et à résister concrètement contre la gentrification. C'est des forces qui sont quand même extrêmement puissantes qui sont en face. Et puis il y a aussi tout un tas de résistances qui sont moins frontalement représentées par les personnes elles-mêmes comme des actes militants, mais des poursuites d'usage populaire. Il y a un sociologue qui est décédé malheureusement en 2015, mais qui était un sociologue géographe qui s'appelle Mathieu Giroux, qui a étudié ce phénomène à Lisbonne et à Grenoble, et qui a produit des choses assez extraordinaires sur le maintien des pratiques populaires et sur la puissance du maintien des pratiques populaires dans les espaces gentrifiés comme une des formes de résistance en acte principal, même si elles ne sont pas considérées directement comme politiques, quoi. Et à Douarnenez, on voit ça, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de pêche, tout le monde continue à pêcher, il y a une interdiction de baignade, tout le monde continue à se baigner, il y avait plus de mobilier urbain, du mobilier urbain a été construit et posé sur le port. Deux jours après, la mairie a dû réagir en virant tout ça dans des bennes et en installant des bancs tous les 2 mètres pour absolument éviter qu'il puisse se passer d'autres installations comme ça. Et voilà, il y a quand même des résistances comme ça. Et puis, une des résistances de la résistance habitée du territoire, c'est aussi la présence très forte de l'habitat populaire sur le port, avec des HLM, des barres de HLM vues sur mer ou très très proches, dans les endroits qui sont les plus soumis à la spéculation. Et ça aussi, c'est des formes d'habiter qui produisent, en tout cas qui ralentissent le phénomène d'embourgeoisement et de mise en tourisme et de gentrification du territoire.
Bien. Et donc ce soir, notamment, une action est prévue, une manifestation est prévue à Douarnenez contre Airbnb, qui est l'un des acteurs de cette gentrification mise en tourisme de Douarnenez.
Tout à fait.
Et donc une manifestation qui est en lien avec un appel national.
C'est ça. En fait, c'est la journée mondiale du tourisme aujourd'hui. Et du coup, c'est des assos de droit au logement européennes qui ont appelé pour le droit au logement et contre Airbnb à organiser des manifs un petit peu partout en Europe. Et du coup, Douarnenez s'en est saisi un petit peu. Et du coup, je peux lire le communiqué en tout cas. Le 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Faisons de cette date une journée d'action contre Airbnb et pour le droit à la ville. Pas à la vie, hein, à la ville. L'industrie touristique représente un emploi sur 10 créé dans le monde, 10% du PIB mondial et génère plus de 1,3 milliard de dollars de recettes chaque année. C'est aussi le seul secteur qui a connu un développement continu, même en plein cœur de la crise de 2008. Le tourisme représente pour beaucoup de territoires la dernière chance de profit et de prospérité économique perdue depuis la désindustrialisation. Mais pour accéder au marché touristique, les villes doivent consentir de gré ou de force à des transformations urbaines profondes. Nous ne comptons plus les exemples de villes et de quartiers sacrifiés qui prouvent que la mise en tourisme incontrôlée menace notre capacité à habiter les territoires. Patrimonialisation, muséification, homogénéisation des territoires et des formes de vie, transformation des commerces et lieux de sociabilité annuels en lieux saisonniers et touristiques, conflictualité entre usages anciens et populaires des espaces et nouvelles vocations marchandes, et bien sûr, disparition de nos logements. Les pouvoirs publics sont incapables de produire les logements permettant d'accueillir les flux correspondant aux nouvelles modalités touristiques et amplifiées par les politiques volontaristes sur le secteur. La seule source de développement de la capacité d'accueil estivale est alors la conversion des logements annuels en meublés touristiques de courte durée. Sensible aux profits supérieurs générés par la location touristique et profitant d'une réglementation et d'une fiscalité plus douce, nombreux sont les propriétaires qui choisissent de convertir leurs logements en hébergement touristique. Ce secteur attire aussi de nouveaux investisseurs très bien dotés en capital financier qui font sortir du parc de location annuelle des appartements, des immeubles ou des quartiers entiers de certaines villes sans se soucier des répercussions de leurs investissements sur l'accès au logement des habitants. Ce phénomène est largement favorisé et accéléré par les plateformes de location de courte durée dont le plus connu est Airbnb. Là où Airbnb s'installe, se développe aussi la spéculation, l'augmentation des loyers et la diminution du parc de logements annuels. La gentrification touristique, ce déplacement forcé des populations populaires remplacées par des nouveaux arrivants plus aisés, et la transformation des habitats en résidences secondaires ou en meublés touristiques de courte durée se passent dans le silence des pouvoirs politiques locaux et nationaux. Ils favorisent par leur inaction l'injustice économique et la précarité et ouvrent la voie à la future désertification des territoires. Face à la logique du profit pour quelques-uns, pour protéger nos logements, pour rendre nos villes habitables et pour la justice sociale, le 27 septembre, nous nous joignons à l'appel de la Coalition européenne pour le droit au logement pour faire de cette journée la première journée européenne contre Airbnb. Airbnb détruit nos villes, rendons-lui la vie impossible.
Comme on le disait en préparant un peu l'émission tout à l'heure, la mise en tourisme, c'est une forme de gentrification un peu particulière, parce que c'est pas vraiment une désertification, mais c'est un remplacement de la population des habitants. Sédentaires, pas des habitants de passage. Et donc une désertification, une perte de l'espace habité, enfin vivant, par une population qui n'est de passage et qui va se servir de l'espace que de façon très temporaire et très bornée, limitée, selon des usages qui vont peut-être être fixés par avance. Tu parlais de la volonté de la municipalité de transformer le Rosmeur en une espèce de zone commerciale.
Oui, c'est assez clair. Là, il y a eu le discours officiel de mise en campagne du maire actuel de Douarnenez qui, dans ses lignes principales d'action politique pour l'année, a affirmé vouloir ouvrir ou faciliter l'installation, je cite, d'habitants à forte capacité financière auxquels on ne devrait pas avoir peur parce que, tout simplement, ce sont eux qui vont payer les politiques sociales de la ville. Et ils appellent ça de la mixité sociale. Donc c'est un discours de mixité sociale qui cache pour le coup assez mal, qui peut mieux le cacher dans un discours humaniste et de gauche, mais qui là le cache vraiment très très mal, une tentative de lissage et d'invisibilisation des conflits qui sont à l'origine et qui produisent l'espace et l'urbain. Il n'y aura jamais de tous ensemble dans une ville harmonieuse et mixte tant que on sera dans un système disons le système capitaliste inégalitaire conflictuel et antagoniste quoi. Du coup tout ce discours il cache un petit peu les conflits qui sont à l'origine de ça. Et sur la question spécifique de la gentrification touristique ou du lien entre gentrification et mise en tourisme, c'est une relation qui est de toute façon hyper complexe parce que c'est assez clair que c'est observé à Douarnenez, c'est vraiment un petit peu le début, mais c'est assez clair de la façon dont c'est observé dans d'autres territoires que à la fois il y a des nouveaux investisseurs, spéculateurs qui viennent que pour les espoirs de plus-value générée extrêmement forte dans un territoire en crise et avec une capacité immobilière forte comme Douarnenez. Mais Douarnenez est en crise depuis la désindustrialisation de la Sardine, et clairement il y a plein d'habitants et d'habitantes sincères pour qui le développement touristique est aussi une forme de source de possibilité de rester habité sur le territoire. Du coup, il y a à la fois, c'est un rapport un petit peu dual, un rapport un peu disons, dialectique à la production de l'espace, dans le sens où c'est lu et c'est réellement à la fois comme un espoir de pouvoir rester ancré là où on vit par des débouchés économiques nouveaux dans un territoire en crise dans lequel il n'y a aucune autre possibilité économique de développement, parce que la pêche reviendra pas demain, la pêche au maquereau sera pas réinstallée à Douarnenez de façon aussi massive qu'avant. Et du coup, il y a à la fois cette attache de beaucoup d'espérer une mise en tourisme justement harmonieuse qui permettra à plein de gens de continuer à vivre ici, et à la fois des répercussions qui sont absolument évidentes parce qu'on les voit partout et que c'est sûr, c'est que ça va produire encore plus d'inégalités, d'injustice et de transformation, d'une gentrification à la fois immobilière avec l'augmentation du prix des loyers et du coup l'évacuation de populations les plus précaires en dehors de la ville, et aussi une transformation, une gentrification commerciale, quoi, une transformation des espaces de sociabilité, disons commerciale, marchand, vers des formes de commerce saisonnier qui participent peu à une vie collective annuelle qui nous semble représenter des formes d'habiter souhaitables dans la ville, quoi.
Donc j'ai envie de demander, mais c'est une question un peu peut-être un peu trop large, quelle forme de déplacement dialectique pour écarter la gentrification et la mise en tourisme, quelles tentatives en tout cas sont proposées, sont actuellement recherchées à Douarnenez, donc ce soir une première manifestation et plus tard.
Du coup, comme le disait Max tout à l'heure, il y a quand même aussi pas mal de résistance.
Et peut-être pour préciser, ça fait écho, donc cette lutte qui commence à Douarnenez, elle fait écho donc à d'autres, donc à Brest évidemment, la place de l'avenir, l'immeuble, donc pour ceux qui connaissent le quartier, l'immeuble Proudhon, plus loin la gendarmerie de l'Artois, le plateau des Capucins, donc qui était un lieu, un haut lieu de l'industrie navale à Brest et qui est actuellement en cours de transformation, enfin déjà bien transformé et qui va encore être dont la transformation va être de nouveau accentuée. Donc, ça fait aussi écho à Marseille, peut-être, une autre grande ville qui subit actuellement des transformations urbanistiques très fortes et dont les dernières, donc sur la place de la Plaine, sont assez connues. Alors, Douarnenez, quelle forme prennent les formes de lutte ?
Comme le disait Max tout à l'heure, il y a quand même pas mal de résistance populaire de pratique, quoi. Enfin, c'est-à-dire des gens qui continuent à se baigner alors qu'il y a une interdiction. On est un petit peu en fait au début aussi de la lutte. Il y a eu une première réunion publique du coup pour décider de rejoindre l'appel européen. Donc là, c'est vraiment le lancement d'un collectif. En essayant un petit peu de diversifier aussi les pratiques là-dedans, quoi.
Oui, pour l'instant la volonté de se rassembler, de se regrouper et de pouvoir discuter de ces phénomènes et de leurs impacts sur la ville. Ensuite, je pense qu'il y a une vraie volonté justement de déconstruire le discours général porté par la municipalité et puis par les acteurs économiques principaux de la ville, justement de mixité sociale et de développement harmonieux. Et du coup, d'établir un discours qui est plus conflictuel et essayer d'apporter un rapport de force. Ensuite, quelle forme prendra ce rapport de force, on ne sait pas trop. Il y a des objectifs un petit peu, disons, à court terme qui semblent s'ouvrir dans le sens où Airbnb, ça va très très vite et qu'il y a quand même des espèces de propositions qui peuvent permettre de ralentir l'impact d'Airbnb, qui sont des positions un petit peu légalistes ou quoi, mais qui peuvent être en tout cas amenées dans le débat public, au moins pour contraindre les gens qui sont à des postes de pouvoir de faire de cette question-là une vraie question et peut-être d'essayer d'avoir un certain ralentissement de ce côté-là. Et puis après, effectivement, toutes les formes de lutte et de résistance qui pourront se mettre en place, mais ça, on verra par la suite, quoi.
Exproprier les investisseurs.
Donc évidemment, la question ne peut être résolue que dans une société non capitaliste. Et là, pour conclure, peut-être à moins que vous souhaitiez ajouter d'autres choses, la dynamique du local, d'un lieu non marchand, s'inscrit dans une telle volonté.
Oui. Enfin, en tout cas, on essaye dans la complexité et toutes les contradictions dans lesquelles ça s'instaure. De pousser à ça, et effectivement, si on considère que le tourisme, c'est la forme de déplacement de loisirs d'une société organisée autour du travail, du coup d'une société capitaliste autour du travail social, sortir du tourisme, ou en tout cas sortir de la mise en tourisme problématique, c'est sortir du capitalisme. Donc il y a cet objectif un peu à long terme, je ne sais pas, mais en tout cas cet objectif théorique et même pratique. Et puis des choses peut-être plus accessibles, concrètes aujourd'hui, quoi.
Eh bien, merci Julie, merci Maxime.
Merci à vous.
D'être passé à Brest, d'être passé à la Kermesse des Piquesses. Et à très bientôt à Brest, Douarnenez ou ailleurs, contre les gentrificateurs et les investisseurs. Ciao.
Ciao.